Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour 90 minutes info sur CNews, l'actualité bien sûr et les débats, c'est ici avec nos invités et aujourd'hui, cette circonstance, un casting royal. Marc Menon, bonjour. Marc
bonjour Menon.
Monseigneur, mon régent. Jean Garrigue est avec nous, bonjour Jean Garrigue, merci d'être là. Harold Diman, bonjour. Et Philippe Delorme, bonjour, soyez les bienvenus. Évidemment, l'actualité, vous la connaissez, on va partir en Angleterre dans quelques instants. Mais d'abord, on fait un point sur l'actualité avec vous, Mickaël Dorian.
Une fanfare de trompette et une seconde proclamation à la Bourse de Londres cet après-midi pour le nouveau roi d'Angleterre, Charles III. Plus tôt dans la journée, une première cérémonie avait eu lieu au balcon du Palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Il doit encore, dans les prochaines heures, recevoir la Première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Les forces ukrainiennes reprennent du terrain. Kiev a annoncé être rentré à Kupiansk. Cette ville clé de l'est du pays est aux mains de l'armée russe depuis plusieurs mois. Un responsable régional a publié une photo de soldats ukrainiens dans la ville de 27 000 habitants avec le texte « Kupiansk, c'est l'Ukraine ». Et puis football, il n'y aura pas de supporters niçois au match contre Ajaccio demain. Un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit le déplacement individuel ou collectif des supporters de l'OGC Nice. Cette mesure est prise en raison notamment des nombreux troubles à l'ordre public consécutifs au comportement violent de certains supporters des deux clubs récemment. À Nice, jeudi soir, 32 personnes ont été blessées dans l'enceinte du stade.
Et l'actualité donc dans notre émission aujourd'hui sur CNews, c'est Charles III qui est officiellement proclamé roi. Cela s'est déroulé en fin de matinée lors d'une réunion du conseil d'accession au palais St James de Londres. Dans le même temps, à Balmoral, où repose encore la dépouille de la reine. On peut le voir avec cette image en direct, les frères et sœurs du roi qui arrivent dans la résidence. Et Charles III, lui, est arrivé à Buckingham Palace. Nous serons à Londres et à Balmoral dans cette émission. Bien sûr, la proclamation a été lue en public, au balcon de la résidence à Londres. 41 coups de canon ont été tirés pour saluer l'événement. On revient sur cette journée assez dense et on en parle avec nos invités.
Nous demandons à Dieu de bénir ce roi et qu'il règne sur nous pour de nombreuses années. En ce 10e jour de septembre à St. James Palace en 2022. Charles III, par la grâce de Dieu, du Royaume-Uni et de l'Irlande du Nord et pour mes autres royaumes et territoires, roi défenseur de la foi, je promets solennellement et je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise.
For His Majesty the King. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray!
En quelques secondes, en quelques minutes, toute cette journée de protocole, image en direct encore une fois avec les membres de la famille du roi qui arrivent toujours à Balmoral, où le roi ira sans doute dans quelques heures. On y retournera bien sûr avec nos envoyés spéciaux. Mais Marc Menon, on l'a entendu, Charles III a prêté serment. Je pense que le protocole a bien été respecté, les usages et les coutumes.
Au mot près.
Au mot près, c'est parfait. Le serment a du sens tout de même. Ce ne sont pas des mots lancés en l'air.
Mais non, mais là, c'est formidable parce que l'extrait commence comme il le doit, à savoir Dieu. Si l'on n'a pas cette référence, là encore, je suis pas un prosélyte en train de dire il nous faut revenir à une royauté, il nous faut nous agenouiller, etc. Surveillez-moi. Frère républicain, surveillez-moi. Camarade.
Vous êtes sous contrôle, Marc, mais continuez, allez-y.
De très révérend mais... père.
Mais c'est déterminant. C'est-à-dire que cette institution n'existe que parce que il y a cette référence. Et c'est pour ça que c'est au mot près que les déclarations éventuellement apparaissent. Et on pourrait entendre presque la reine Élisabeth quand elle-même a prêté ce serment devant le même conseil. La différence, c'est quoi ? La première fois qu'il y avait la télévision. C'est un élément, bah, disons, on a un œil coquin, un œil qui théoriquement n'a pas sa place en ce lieu, mais à part cela, voilà. Et sinon, moi, ce qui me fascine depuis hier, c'est que par intermittence, de par le décorum, de par la présence de tous ces gardes, de par les immersions dans les divers lieux, nous sommes ailleurs. Et regardez d'ailleurs, forcément, il y a une focalisation de la presse sur cet événement. Et où étions-nous ? Nous étions en guerre. Nous étions avec des grèves en Angleterre. Nous avions ceci. Et soudain,
le monde s'est arrêté.
Le monde s'est arrêté, mais il ne s'arrête pas avec des images d'aujourd'hui. Il s'arrête avec une inconstante qui est cette royauté et cette, comme s'il y avait une continuité de l'humanité.
On va superposer les époques puisque vous nous le proposez, Marc. Maintenant, vous avez fait allusion au discours en noir et blanc, on va le voir à l'époque de la reine d'Elisabeth II et essayer de comparer les personnalités. Le début du règne de Charles III, en effet, il ne fait que démarrer. Mais c'est intéressant de s'apesantir un tout petit peu, s'appuyer un tout petit peu sur les propos, les mots et la lourdeur de ces mots et le sens de ces mots déjà à l'époque. Elisabeth II.
I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong.
Alors, faut bien vérifier, dire que voilà, ce n'est pas son accession au pouvoir. Là, c'est 18 ans, non, c'est 21 ans.
Oui, 21 ans.
21 ans, voilà, c'est 21 ans. Elle est au Cap, donc en Afrique du Sud, et elle s'engage. Elle est encore princesse, hein, elle ne sera reine que 3 ans plus tard. Elle s'engage effectivement toute sa vie à servir le pays. Mais là, c'est pas son serment de reine, si vous voulez. Mais enfin, finalement, elle ne l'a fait que le renouveler.
Mais elle a une forme de prestance aussi déjà, et elle est elle est déjà souveraine dans sa manière
bien
de
s'exprimer,
dans
élevée,
les mots qu'elle prononce.
Elle est élevée pour cela. Hein. Oui. Elle, déjà pendant la guerre, elle a tenu tout son rôle hein, d'héritière du trône. Donc, effectivement.
Oui, on l'a souvent répété ici, mais il faut se rappeler qu'à 14 ans, en pleine guerre, elle prononce déjà à la radio un discours envers les enfants britanniques qui sont pris dans la tourmente de la guerre, en les incitant à résister.
Donc elle était déjà dans les médias modernes, parce que la radio en 1941 ou 40.
Il faut pas oublier à l'époque qu'elle n'a que 14 ans. Je veux dire que c'est quelque chose d'assez stupéfiant de s'être adapté comme ça à un média. Même en France, à l'époque, très peu d'hommes politiques utilisent la radio.
Non, mais c'est une star.
Non, c'est pas une star. Non, justement.
Bah, elle prend bien la lumière. C'est une star.
Non, une star, c'est quelqu'un comme vous, comme moi.
Ah non, Vous êtes une star, Marc, maintenant.
Par là, un individu quelconque peut atteindre un rayonnement de pacotille qui est celui de la notoriété plus ou moins consacrée par le public. Elle, c'est pas ça. Elle, dès le départ, elle est en place. C'est quelque chose qui lui est imposé. Elle ne s'est pas soustraite.
Comme Charles depuis l'âge de 3 ans.
Mais bien évidemment.
Pour conclure, on va aller voir Régine Delfour.
Ça ne sera jamais une star.
Mais la différence d'une star, effectivement, elle incarne quelque chose qui la dépasse, ce qu'une star ne fait pas.
Voilà. Je cède la parole à Harold dans un moment. Mais d'abord, direction Balmoral. Régine Delfour, envoyée spéciale de CNews. Bonjour, Régine. Avec d'abord, on a vu évidemment les personnalités, les membres de la famille de la reine et du roi désormais aujourd'hui arrivés à Balmoral, mais vous êtes tout à côté d'une chapelle où très vraisemblablement il va y avoir une phase de recueillement.
Oui, Lionel, en fait, la phase de recueillement a eu lieu et c'est dans cette petite chapelle, pendant un petit quart d'heure, hein, que certains membres de la famille royale se sont rendus tout à l'heure. On a pu apercevoir la princesse Anne, le prince Andrew, encore le prince Édouard. Quelques petits-enfants aussi étaient là. D'autres membres étaient déjà dans la chapelle. C'était une petite prière pendant un quart d'heure. C'était la première sortie quand même officielle de la famille royale. Après, ils ont laissé des voitures au niveau du pont et ils ont marché jusque devant les grilles du palais où ils ont pu découvrir toutes les fleurs. Il y a des milliers de fleurs, Lionel, qui sont déposées. Il y a des dessins, il y a aussi la peluche, hein, l'ours Paddington, et puis des cartes en hommage évidemment à la reine avec énormément de mots remerciant la reine pour sa loyauté, pour son dévouement et beaucoup de mots très émouvants. On a pu parler avec différentes personnes et tous nous disaient que la reine était dans leur cœur et elle leur manquait énormément.
Personnalité que l'on a pu apercevoir, il y a évidemment beaucoup d'anonymes, tout le peuple britannique soutient et rend hommage à la reine, mais actuellement à Balmoral, quelles sont les personnes que l'on peut apercevoir, Régine ?
Alors en fait, il y a énormément d'Écossais, effectivement, puisque nous sommes en Écosse. Ils viennent des quatre coins de l'Écosse, mais on a vu aussi des gens du Pays de Galles, on a croisé aussi des Irlandais. Ils avaient tous envie de venir de rendre hommage à la reine. On a aussi pu échanger avec une femme qui a travaillé pendant quelques temps à Balmoral avec la reine et qui était très très émue. Elle pleurait, elle nous a dit que la reine était une femme extrêmement gentille. On a vu deux sœurs qui étaient là aussi, et pour elle, c'était essentiel d'être là. Comme je vous le disais, elles ont tous, toutes ces personnes louent cette loyauté. Et puis, il y a aussi ce côté pour les Écossais que la reine avait, c'est qu'elle maintenait l'unité dans le royaume.
Merci Régine Delfour, à très vite sur l'antenne de CNews en direct de Balmoral. Harold, d'abord, on a quand même deux événements qui sont en train de s'entrechoquer. Ils sont intimement liés, bien sûr, puisque la reine est morte, donc vive le roi, en effet. Mais on a la disparition d'une icône et les hommages continuent. Et à côté, tout le protocole et toute l'émotion qu'il peut y avoir aussi et le poids politique d'un nouveau roi.
Donc c'est comme si vous demandiez, il y a un côté barbant et un côté émouvant.
Le protocole, non, ce sont deux émotions assez fortes en parallèle. Oui. Deux émotions assez fortes en parallèle avec D'accord. un poids politique international très fort.
Oui, bien sûr, mais le côté, je dirais, star... ou de popularité, je dirais bon enfant, mais ah, regardez comment elle est avec ses chiens, regardez comment elle était avec Paddington, regardez comment elle joue au James Bond, etc. Ça c'est le côté populaire large. Et le côté de cérémoniel auquel vous faites allusion, le protocolaire, ça c'est le côté sérieux. Ça veut dire, ce n'est pas une monarchie qui flotte pour justement faire un peu d'entertainment. Ils sont là parce que toute la constitution est bâtie avec eux au centre. Et le Parlement, bien sûr. Donc, c'est extrêmement sérieux. Les institutions sont extrêmement sérieuses et vieilles. Et on essaye de les maintenir au top de leur pertinence. Donc, parfois, ça oblige le pauvre roi Charles à lire des documents d'un ennui absolu. Où il dit, je jure d'être le défenseur de l'Église presbytérienne. Alors, on est là, qu'est-ce que c'est que l'Église presbytérienne en Écosse?
Il en est le gouverneur.
Oui.
Suprême.
C'est voilà, important. Mais en fait, c'est probablement aussi important que le reste, même si c'est beaucoup moins divertissant.
Et je crois que justement, ce que disait Marc Menant tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une star. Et justement, là, on en a la preuve. Parce que lorsqu'une star meurt, ou un dictateur, hein, lorsque Staline meurt, ou Johnny Hallyday, voilà, c'est le néant. Après, il n'y a plus rien, on pleure, et puis on l'enterre. Tandis que là,
il y a un successeur.
Il y a un renouveau. Alors, pour revenir à l'Église d'Écosse, effectivement, c'est un peu étonnant d'en entendre parler tout à l'heure. Mais là, vous avez vu tout à l'heure à Balmoral, on voyait cette petite chapelle derrière, oui. Où d'ailleurs la princesse Anne s'est remariée, parce que l'Église d'Écosse est plus coulante avec les remariages que l'Église d'Angleterre. En fait, il faut savoir qu'en Écosse, il y a une Église réformée, protestante, qui est plus protestante que l'Église d'Angleterre. Et donc, effectivement, le roi est obligé de montrer qu'il est à la fois le protecteur de l'Église anglicane et aussi le protecteur de cette Église écossaise.
Religions.
C'est deux religions, effectivement. Mais enfin, il est lui-même anglican de... Il appartient à la communion anglicane, mais il protège en tant que... souverain aussi.
Il est chef même.
La foi.
Non, il est le chef.
Il est chef de beaucoup de choses d'ailleurs. Je crois que même qu'il est, il est le roi des poissons, des dauphins qui sont dans les eaux territoriales.
Les cygnes.
Exactement.
Les
eaux territoriales de la Grande-Bretagne.
La Tamise. Les cygnes de la Tamise. Et d'ailleurs, on les recense tous les ans pour savoir combien il y en a et qui appartiennent au roi. Et puis alors, effectivement, les baleines, les esturgeons et les dauphins qui échouent sur les côtes appartiennent à sa gracieuse.
Non, mais ce qui est formidable, c'est qu'il ne paye pas d'impôts, il n'a pas besoin de permis de conduire.
Il paye des impôts maintenant.
C'est récent, mais.
Enfin, tout a été mis à plat et en plus.
Mais il peut se déplacer sans passeport et se permis de conduire.
Absolument.
Ça, c'est l'un des privilèges que vous n'aurez jamais, c'est... Marc Menon. Je tiens à vous le dire.
Oh, oui,
vous avez encore besoin d'un passeport pour vous déplacer.
C'est sur le permis que j'ai du mal à me maintenir.
Sur le permis, c'est autre chose, on en parlera. Jean Garrigue, il a des devoirs maintenant. C'est-à-dire que pour Charles III, c'est peut-être maintenant que les problèmes commencent.
Oui.
Parce qu'il y a le poids de l'histoire avec sa mère, le règne d'Elisabeth II, et puis la situation économique, politique dans le monde.
Il était évident qu'il arrive au pouvoir dans des conditions totalement différentes de sa mère, qui, elle, est associée à un moment dramatique de l'histoire d'Angleterre et du monde, et dans lequel, finalement, très vite, elle prend posture de héros, ou d'héroïne en tout cas, puisque avec ses discours dont on a parlé, quand elle devient infirmière, mécanicienne, enfin, elle est associée à la grande histoire. Mais Charles, ça fait quand même un petit bout de temps qu'il reçoit la charge de son rôle de prince de Galles et ensuite de roi aujourd'hui. On le connaît et c'est quelqu'un qui a toujours finalement, sur lequel a toujours pesé cette charge, ne serait-ce que lorsqu'on l'envoie tout jeune dans ce collège dans le nord-est de l'Écosse où son père lui-même avait été élevé. Il l'a ressenti comme une prison, mais il l'a fait. Il a admis cette charge. Par la suite, y compris son mariage avec Lady Diana, c'est quelque part une charge, puisqu'on sait très bien qu'il était amoureux d'une autre femme. Et puis, depuis très longtemps, d'ailleurs depuis des années, il remplace sa mère dans certaines manifestations, notamment auprès du Commonwealth. Et puis tout récemment, on a vu quand, je crois que c'était en mai 2022, c'est lui qui a prononcé le discours du trône devant les chambres à Westminster. Donc véritablement, c'est quelqu'un qui a été éduqué et quelqu'un qui a, je dirais, endossé la lourdeur de cette charge.
Je crois qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il ait un rôle politique au sens de s'occuper des factures de gaz ou je ne sais quoi. De ce qui... Lui, il va apporter de temps en temps des petites touches... comme lorsque la reine, pendant le Covid, a fait ce discours. Voilà, il va intervenir ponctuellement. Et c'est ça le rôle du roi. C'est pas un rôle...
Bien sûr. Le rôle politique, on en parlera après 16 heures aussi, puisqu'il a rencontré la première ministre, les ministres, les partis d'opposition aussi. Mais Marc Menon, son rôle, il sera aussi très important et observé au microscope en rapport avec le règne de sa mère.
Oui,
simplement.
Mais
quelle est sa personnalité? Ils ne sont pas pareils tous les deux.
Ah,
ils
mais
sont
pas du tout.
Du tout
mais
les mêmes caractères.
Alors déjà, il faut savoir qu'à sa naissance, pour la première fois, il n'y a pas de ministre de l'Intérieur convoqué pour bien vérifier qu'on n'assistera pas à une tentative de substitution. Mmh. C'est la première fois. Et en plus, il naît au Palais Royal, car il se trouve que le prince Philippe et son épouse, la future reine Élisabeth, leur demeure a été très abîmée durant la guerre et on est en restauration avant de les accueillir. Ils vont donc vivre en cohabitation avec le roi et la reine. Et l'autre point qui est important dans ce que Jean nous énumérait tout à l'heure, ou formulait, à savoir l'éducation. C'est la première fois qu'un prince va aller à l'école comme tout le monde.
À 7 ans.
C'est-à-dire que la reine, elle a eu des précepteurs avec sa petite sœur, Margaret. Elles ont vécu dans un cocon. Et d'ailleurs, elle en souffrira énormément, car à part avoir des cours de littérature, des cours d'histoire et de musique, alors aussi, la grande chance, ce sont les chevaux. On a aperçu la princesse Anne tout à l'heure, qui a été championne d'Europe de concours complet. Mais elle aussi, elle a cette fascination pour le meilleur ami des hommes, et elle ne les quittera jamais. C'est quelque chose qui l'anime au quotidien dans sa revue de presse. Elle a en plus un journal qui est le journal des courses. Il n'est pas
elle
question...
adore ça.
Elle adore ça. Ouais. Mais le roi Charles, a la même passion pour les chevaux. Ça, c'est une continuité. Mais... En revanche, dans l'éducation, et je finis là-dessus, je ne veux pas parler trop longtemps, ce qui est important, c'est que lui a été, même s'il a souffert, ouais, parce que les autres le chahutaient, se moquaient de lui avec ses grandes oreilles, etc., il a eu une véritable éducation. Il a été un personnage démontrant de grandes qualités intellectuelles. Et la reine, elle, dira toujours qu'elle souffrait de ne pas avoir eu une véritable éducation.
Exactement. Vous avez parlé de Camilla, son épouse, la reine consort, aujourd'hui. Il en a dit quelques mots hier dans son premier discours, le roi Charles III, et j'aimerais qu'on évoque son cas, sa situation et le rôle qu'elle pourrait avoir dans quelques instants. Mais d'abord, on écoute Charles III.
C'est également un moment de changement, de mutation pour ma famille. Avec tout l'amour, le dévouement de mon épouse adorée Camilla, en reconnaissance de son service pour le public depuis notre mariage il y a 17 ans, elle devient ma reine consort. Je sais qu'elle va amener dans ce nouveau rôle vraiment le dévouement envers le devoir sur lequel je puis tant compter.
Ça me rappelle le discours d'abdication d'Édouard VIII en décembre 1936, où justement, il a dit le contraire. Il a dit « Je ne peux pas être roi parce que j'ai besoin du soutien et de l'amour de la femme que j'aime, hein. Ouais. Et là, il dit, je vais pouvoir être roi grâce au soutien de cette femme.
Quelle est sa réputation? Est-ce que c'est un couple très uni et très apprécié, Harold, en Grande-Bretagne? Quel peut être le rôle, d'ailleurs, dans le règne de Charles III, de Camilla?
Camilla devra s'occuper essentiellement de philanthropie, d'œuvres charitables, mais il y en a énormément en Angleterre et au Royaume-Uni. Et Charles, lorsqu'il était prince, était connu pour ça. Donc elle s'est jetée là-dedans à corps perdu et elle s'est rachetée un peu une réputation parce qu'auparavant, c'était un peu la tueuse de foyer, briseuse de mariage et qui était restée mariée à un homme, mais ayant une liaison avec le prince Charles de l'époque en parallèle. Tout cela apparemment a été lavé et même la reine Elisabeth l'a désignée comme reine consort. Elle lui a donné le droit de porter ce titre par après. Et vous voyez que les monarques ont certains privilèges de pouvoir. Ils peuvent décider de certaines choses d'eux-mêmes.
Marc Menant.
Tout à l'heure, vous parliez de la continuité, oui, avec la reine.
Oui.
Ben là, c'est incroyable, l'histoire d'amour. Un amour total, un amour de pureté. Le coup de foudre de la petite adolescente quand elle voit ce prince qui est là brillant devant les autres, quand elle visite l'institution avec ses parents, ou le prince Philippe, qui n'est pas encore prince Philippe, quoique si, il est déjà prince, mais en Grèce. Et donc, que ce garçon d'une beauté étonnante, elle dit c'est lui, il n'y en aura pas d'autre, et ils ne se quitteront pas. Elle dit c'est mon roc, mais Camilla a été, dans toutes les épreuves traversées par le prince Charles, justement un point d'appui, quelque chose qui lui permettait de pouvoir tenir alors qu'il subissait toute la vindicte populaire.
Jean Garrigue, oui, sur le rôle de Camilla, justement, sur sa personnalité, le fait qu'elle soutienne son roi aujourd'hui, son amour de toujours, bien sûr, mais désormais le roi.
D'abord, elle revient de loin, parce qu'il y a 20 ans, l'image de Camilla, au moment des crises du couple entre Charles et Diana, c'était une image quand même très, très négative. D'ailleurs, ça a pu peser encore sur le... Si vous regardez les sondages de notoriété de Charles, il n'est pas au niveau d'Elisabeth, de sa mère. Peut-être le deviendra-t-il, parce que je pense que cette continuité dynastique...
Aidé ou pas par Camilla?
Moi, je pense qu'il sera aidé par Camilla, parce que Camilla connaît très bien les rouages de la monarchie britannique. Elle connaît les usages et je pense qu'elle va se couler assez facilement dans le rôle de reine consort. Et puis, je voulais juste rappeler quelque chose à propos de Charles, pour rebondir sur ce que disait Marc. C'est un intellectuel. Je veux dire, c'est le premier roi qui est diplômé de l'université. Il a fait Trinity College à Cambridge. Il a un diplôme d'art, d'architecture et d'histoire. C'est quelqu'un qui est un véritable intellectuel. Il a fait des études pour apprendre la langue galloise, bon, le gaélique. Non, c'est quelqu'un qui...
Très investi dans l'écologie.
Très investi dans l'écologie, n'en parlons pas.
C'est un investigateur.
C'est un pionnier de l'écologie.
Voilà. Alors, on va marquer une petite pause. Je vous propose de marquer une petite pause. On va continuer à parler du nouveau roi, Charles III, avec vous dans quelques instants. Nous sommes toujours en direct de Balmoral, vous le voyez sur nos images en direct. D'autres envoyés spéciaux vont intervenir. D'autres réactions également. À tout de suite sur l'antenne de CNews. 90 minutes info continue, toujours en direct, bien sûr, sur CNews. Nos invités sont là, encore beaucoup de débats à venir sur toute l'actualité. Mais d'abord, un point sur l'information avec vous, Mickaël Dorian.
Charles III proclamé roi, la cérémonie a eu lieu au balcon du palais Saint-James, résidence administrative de la couronne britannique. Plus tôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment. Le nouveau roi qui doit dans les prochaines heures recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Londres, Berlin et Paris ont de sérieux doutes sur l'engagement de Téhéran pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire. Selon eux, la position de l'Iran n'est pas conforme à ses obligations juridiquement contraignantes et compromet les perspectives de rétablissement de l'accord de 2015. Notre position reste claire et inchangée. L'Iran doit coopérer pleinement et immédiatement, ont fait valoir les trois pays. Au moins 3 morts dans une collision de train en Croatie. 11 personnes ont été transférées à l'hôpital après qu'un train de passagers et un train de marchandises se soient percutés dans le centre du pays hier. La raison de cet incident reste inconnue pour le moment. Et puis refus d'obtempérer à Nice. Le policier qui a tiré mortellement sur un automobiliste de 24 ans mercredi a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant donné la mort sans intention de la donner. Lui revendique la légitime défense, une version mise à mal par une vidéo massivement relayée sur les réseaux sociaux. De son côté, l'IGPN, la police des polices, a été chargée d'une enquête pour homicide volontaire.
90 minutes info en direct avec nos invités et toujours notre thématique, direction la Grande-Bretagne, la cérémonie de proclamation du roi Charles III, le Parlement britannique assiégé pour faire vœu d'allégeance, exprimer ses condoléances. Le nouveau roi a ensuite reçu la classe politique. Vincent Farandez est à Londres pour CNews. Vincent, déjà, ambiance à Buckingham où vous vous trouvez comme le roi.
Absolument. Alors le roi est effectivement derrière nous. L'heure est au recueillement. Néanmoins ici à Buckingham Palace, il y a des milliers et des milliers de personnes qui se massent depuis ce matin pour venir rendre hommage, prendre en photo également Buckingham Palace qui se trouve juste derrière nous. Des milliers de personnes qui tentent d'aller devant le palais. Je dis bien qui tentent parce qu'il y a tellement de monde qu'une file d'attente spontanée s'est créée ici devant le palais de Buckingham. Et si nous sommes un petit peu à l'écart, c'est tout simplement parce qu'il y a des milliers de téléphones portables et donc notre matériel qui utilise le réseau mobile ne peut pas fonctionner correctement devant le palais de Buckingham comme la plupart de nos confrères et consoeurs du monde entier. Toujours est-il que, je vous l'ai dit, l'heure est au recueillement. Ici, les Anglais que nous avons rencontrés, évidemment, soulignent la portée historique de ce qu'il se passe. Ils en sont bien conscients. Certains nous ont dit la reine a tellement donné pendant toute sa vie pour le pays, pour le Commonwealth également, qu'il fallait venir ici, peu importe le nombre d'heures de train ou de voiture qu'il fallait faire. Il fallait venir pour déposer un bouquet, déposer une fleur, déposer une bougie ou encore déposer un mot devant les grilles du palais de Buckingham.
Disait Vincent, rencontre avec la classe politique pour Charles III aujourd'hui. Quel est le programme? Peut-on revenir sur son agenda de l'après-midi?
Alors on va commencer par ce matin, vous l'avez suivi sur CNews, il a été proclamé finalement officiellement roi par les plus hautes autorités royales britanniques. Et puis là également, il est actuellement derrière nous au palais de Buckingham avec la première ministre Liz Truss. Il a reçu également l'archevêque de Canterbury, il va recevoir également les leaders de l'opposition britannique. Enfin, dernière information également, c'était en milieu de journée, qui est très importante pour les Britanniques. C'est officiel, le jour des funérailles de la reine. On ne le connaît pas encore exactement. Néanmoins, ce jour sera officiellement férié. C'est une nouvelle qu'attendaient les Britanniques ici.
Merci Vincent Farandez, accompagné de Thibault Marcheteau en direct de Londres devant Buckingham Palace. Rencontre donc politique, Charles III qui va devoir s'intéresser à ces sujets, même si on va en parler avec nos invités. Le rôle du roi sur l'exécutif semble assez relatif. Est-ce que cette rencontre, Jean Garrigue, est d'abord avec la première ministre, qu'il avait déjà vue hier, avec les ministres, avec les partis d'opposition, est toute symbolique? Ou bien au contraire, est-ce qu'on parle déjà cet après-midi de sujets importants, de dossiers chauds?
Moi, je ne dirais pas que c'est symbolique. Je dirais que c'est la continuité historique institutionnelle. C'est une sorte d'attestation réelle, si vous voulez, de ce qu'est l'histoire de l'Angleterre, qui s'est constituée par une émancipation progressive du Parlement par rapport à la couronne et qui a abouti au XIXe siècle, une sorte d'équilibre dans lequel il y a un législatif et un souverain qui a un pouvoir essentiellement honorifique, mais qui est très au courant de ce qui se passe sur le terrain politique. qui a des opinions politiques que la reine n'a jamais révélées. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une affaire qui a été à propos du prince Charles, justement, où des journalistes ont exhumé des lettres qu'il avait envoyées au gouvernement de Tony Blair dans les années 2004-2005 pour s'informer d'un certain nombre de sujets politiques. Mais s'informer, c'est pas influer, c'est simplement vouloir s'informer. Mais ça prouve à quel point Charles avait justement cet intérêt, d'ailleurs on l'a vu à maintes reprises, notamment sur la question écologique, mais un intérêt véritable pour les grandes questions politiques qui concernent l'Angleterre. Donc les souverains britanniques sont particulièrement au fait de ce qui se passe. Simplement, ils respectent à la lettre les institutions, et les institutions qui sont des institutions parlementaires en Angleterre, c'est le respect de la majorité, de l'opposition, du pouvoir du Parlement par rapport au roi, du pouvoir du Premier ministre qui a le pouvoir effectif. Donc moi je pense que là on est vraiment dans une continuité et qui montre bien cet équilibre. Il ne faut jamais oublier que c'est la première grande démocratie parlementaire.
On va faire un tour de table avec chacun d'entre vous sur ce sujet. Juste Harold Iman, un point précis, c'est important de dire qu'on a rarement, voire jamais su ce que pensait vraiment la reine. Tandis que Elisabeth II, tandis que Charles III, on a peut-être une idée plus précise opinions politiques, de ses orientations politiques.
C'est même pas politique, c'est orientations sociétales.
Oui.
Parce qu'il s'est permis de brocarder ouvertement l'architecture moderne lors d'un dîner de gala de l'Ordre des architectes. Ça a vraiment défrayé la chronique. Et même, c'est devenu une crise constitutionnelle. De quoi il se mêle, celui-là, de critiquer les immeubles qu'il appelait « laids ». Il a dit, voilà, tout le monde sait que c'est laid et personne ne veut le dire. Donc moi, je vais le dire devant 300 architectes. Donc c'était puissant.
Et il a construit son propre village pour montrer qu'ils avaient tort.
Absolument. Et il a lancé une fondation pour construire dans le néoclassique tout un village, Poundbury. Bon, donc ça, ce sont des choses où il marque ses préférences. La reine, elle, la seule chose qu'on lui connaissait, c'était une attirance pour le monde de l'équitation. C'est pas très déterminant, mais bon, elle n'était pas attirée par l'exploration spatiale. Alors que son mari, oui, lui, il était attiré par tout ce qui était motorisé.
Il a été extrêmement déçu quand il a rencontré
les astronautes
Armstrong, Aldrin
et Collins.
Parce que. Racontez-moi alors. Et Armstrong dit bah non, nous, vous savez, on fait du boulot, on a été entraînés. Il était d'une. Il n'y avait aucune sensation, il n'y avait pas d'humanité.
Alors, il y a un domaine où les deux se sont politisés, c'était la lutte contre l'apartheid. Alors, sans le dire, tout le monde ils ont donné tous les signaux nécessaires, sans dire je n'aime pas l'apartheid, pour montrer qu'ils étaient contre l'apartheid. Et ça remonte à très loin. Ce n'est pas une mode. Elisabeth était comme ça dès le début. Et Charles a suivi. Et c'est remarquable à quel point il n'y a pas de racisme rentré dans cette famille royale.
Marc Menant, sur le rôle politique.
Alors, le rôle politique, un petit mot en plus forcément. Sur ce que vient de formuler notre ami Harold. Sur l'Afrique du Sud, il y a eu des petites querelles de mots entre Margaret Thatcher et la reine. Ça montre bien quand, toutes les semaines, il y a le rendez-vous, là encore, c'est instauré, tous les mardis, la reine, maintenant le roi, rencontre le Premier ministre. Et on échange sur les projets. Il est tenu au courant, le souverain, de tout ce qui se trame. Et par conséquent, dans la conversation, vous pouvez faire passer lui qui a cette obsession par rapport à l'environnement, qui dit « nous avons un devoir ». C'est pas nous que ça concerne. Ça concerne nos arrière-petits-enfants. C'est à eux qu'il faut penser. Alors quand, par exemple, la Première ministre va lui dire « écoutez, moi je fais en sorte que demain on ait le pétrole de schiste », peut-être qu'il osera. Mais dans cette intimité du tête-à-tête, dire « mais est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'on a véritablement réfléchi ?» Vous voyez, il ne prendra pas des décisions, voilà, mais il pourra. Et le dernier point, c'est sous votre contrôle. Je crois que quand l'armée est mobilisée, la dernière signature est celle du souverain. Mais et s'il ne signe pas, a priori, il ne peut pas y avoir de déclaration.
Sur le degré de décision.
Je dirais
de...
plus que ça, c'est qu'il n'y aurait pas de Premier ministre s'il n'était pas nommé par le souverain. C'est-à-dire qu'elle est la Première ministre de Sa Majesté Charles III. Elle n'est rien sans lui, donc c'est quand même assez important.
Oui, elle n'est rien sans lui, mais c'est elle qui décide.
Elle décide, mais elle ne serait pas là s'il n'y avait pas
cette évidemment. Fameuse... Mais enfin, elle lui rapporte sans pour autant qu'il lui fasse changer d'avis. C'est ça qui est important de savoir.
Dans la Constitution britannique, le souverain, il a plusieurs rôles. Il a le rôle de s'informer, on en parlait tout à l'heure, ils doivent s'informer, donc on lui apporte les décisions, les boîtes, etc. Il doit avertir aussi, conseiller et avertir. Et effectivement, la reine peut se permettre, ou le roi peut se permettre d'avertir, de dire ben, vous êtes bien sûr là que la décision que vous prenez est la bonne. Donc c'est pas un rôle non plus de petit. Je veux dire, il s'adresse pas le Premier ministre s'adresse pas à une statue. Il s'adresse quand même à quelqu'un qui peut. Vous voyez, moi je compare ça souvent à une sorte de psychanalyse. Hein. Quand on va voir le psychanalyste, on s'allonge sur le type est derrière, il dit rien. De temps en temps, il dit ah oui, ah bon. Il vous fait payer à la fin évidemment. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire le Premier ministre se trouve en face de quelqu'un qui ne dit pas grand chose, mais qui lui renvoie sa propre image en quelque sorte.
Ouais. Il y a quelque chose qui me revient, c'est que si je ne m'abuse, dans les années 70, Charles a été le premier de la famille royale à être admis à un conseil des ministres parce qu'il était intéressé et c'était le premier ministre travailliste d'ailleurs, James Callaghan, qui l'avait autorisé à ce qui veut dire que voilà, il y a un vrai intérêt pour la chose et une vraie culture politique, je veux dire, y compris chez sa mère. Si vous regardez la série The Crown, vous voyez les relations qui sont plus du tout les mêmes avec une Margaret Thatcher qu'elle ne l'était avec Winston Churchill ou avec Winston Churchill.
Ça reste très réaliste, cela dit, hein, The Crown.
Oui. Bah, The Crown.
On ne sait pas.
Non, mais
il y a une partie un peu de fiction.
Romancée, bien sûr. Enfin, franchement,
c'est vrai que la reine étant au contact de millions et de millions de personnes au quotidien, elle peut aussi dire à son premier ministre bah, :« J'ai l'impression que les gens réagissent comme ci ou comme ça. » Ce que le premier ministre ne fait pas, parce qu'il lui est dans sa tour d'ivoire et il ne voit pas trop le.
Harold Diman, toujours sur le rôle du roi.
Oui, inversons les choses. Prenons notre président ou un président américain ou dans un régime présidentiel doit jouer le rôle de représentation de la nation et aussi de personnalité partisane qui roule dans le sens de son parti, évident qu'il a lui-même créé ou rejoint. Et on n'a pas ce problème là-bas. Le Premier ministre n'attire jamais la lumière vers lui. Peut-être un peu Winston Churchill, peut-être à quelques moments Margaret Thatcher. Dans la guerre. Mais ensuite, il a perdu les élections. Mais faut dire. C'est le roi qui a tout ce rôle, qui inaugure les choses, qui parle aux troupes, à qui on jure allégeance et tout le monde se fige devant cette personne. Et notre président est obligé de faire les deux. Donc le monarque, lui, n'est pas entaché par la politique.
Juste un petit mot pour conclure, Marc Menant, parce qu'on est quand même aussi dans le contexte, il faut l'expliquer à celles et ceux qui nous regardent, avant de passer à la politique intérieure, la politique française. La Grande-Bretagne, c'est tout de même domaine fragilisé par la crise économique, le Brexit, et des velléités aussi d'indépendance. Donc, ce n'est pas forcément un cadeau aussi qui est fait
au roi Charles III. Non, mais c'est intéressant. Je voulais dire autre chose, c'était sur la vacance.
Pardon.
Non, mais s'il y avait une vacance du pouvoir, il montre une continuité, donc une solidité. Ça, c'est important. Ouais. Et pour répondre à votre question sur...
Le pays fragilisé par la crise économique, notamment.
Fragilisé. Eh bien, je trouve que là, c'est un effet miroir par rapport à sa mère. Sa mère, on est dans le grand drame mondial. Et aujourd'hui, c'est le grand drame mondial du climat, le grand drame mondial de comment on se vote un avenir par rapport à l'environnement. Donc, j'ai l'impression que l'histoire, elle le convoque comme elle a convoqué sa mère.
Autre décorum, deux salles, deux ambiances dans notre émission, mais on peut passer d'une actualité à l'autre, on traverse la Manche. On reviendra inexorablement, bien sûr, à la Grande-Bretagne et au roi Charles III, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de politique française, avec notamment la fête de l'UMA, qui se déroule dans l'Essonne, avec des déclarations, des interventions d'ailleurs, de politiques de tous bords, et notamment des déclarations qui font beaucoup parler, celle de Fabien Roussel, il y a la partie électrique qu'on évoquera peut-être tout à l'heure, mais aussi cette nouvelle déclaration au sujet de ce qu'il appelle la fin des allocations chômage. Écoutez le patron du Parti communiste.
Moi, la France pour laquelle je me bats, C'est une France du travail dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations chômage. Et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement. Imaginez la société où pour chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, il est un parcours de vie fait de travail, de formation, avec à chaque fois un salaire garanti pour construire sa vie et s'émanciper. Mais enfin, c'est ça les jours heureux qu'on souhaite construire. Et c'est ça que je veux. Ce n'est pas une France du RSA, des allocations chômage, des revenus de substitution. C'est une France des salaires, de la formation et des salaires garantis pour tous et pour toutes.
Des réactions politiques à venir, mais d'abord, votre sentiment, Jean-Garry, sur cette déclaration. Est-ce que c'est un doux rêve? Est-ce que c'est un objectif que la France peut atteindre dans un contexte, on le sait, économique et social compliqué?
Non, c'est une stratégie politique qui tend à se déporter, se décaler par rapport à la France insoumise, qui a une tendance, on le sait, hégémonique à l'intérieur de la NUPES, et qui tend à retrouver ce qu'est, au fond, l'ADN du Parti communiste, l'ADN historique du Parti communiste. Le Parti communiste, c'était le monde du travail. Et lorsqu'il parle des jours heureux, il fait allusion au programme du Conseil national de la Résistance, qui a vu, à ce moment donné de notre histoire, le Parti communiste, les socialistes, se rassembler, j'allais dire, autour et derrière le général de Gaulle, pour faire ce qu'on appelait la bataille de la reconstruction. La bataille de la production. Et donc revenir comme ça à la valeur travail pour Fabien Roussel, c'est non seulement, je répète, se décaler singulièrement par rapport à la France insoumise, montrer que sa gauche à lui, c'est pas celle de Jean-Luc Mélenchon, et puis c'est aussi revenir, je le répète, à ce qu'est l'ADN historique du Parti communiste.
Se détacher effectivement un petit peu plus de Mélenchon, qui était présent depuis quelques années, il ne venait plus à la fête de Luma, on l'écoutera un petit peu plus tard, mais... Côté France Insoumise, après les propos de Fabien Roussel, écoutez Clémentine Autain, réaction au sujet des allocations.
En tout cas, je pense qu'il faut qu'on ait à ce moment-là vraiment le débat sérieusement. Mais je veux dire, pour moi, la gauche, elle doit être là pour fédérer le peuple, fédérer ceux qui souffrent au travail, ceux qui sont mal rémunérés et ceux qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi et heureusement qui touchent les allocations et encore pour vivre, vous savez, la difficulté que c'est. Donc ceux à qui il faut s'en prendre, c'est aux vrais assistés et les vrais assistés, c'est aujourd'hui ceux qui vivent de la finance, ceux qui se gavent pendant que la majorité se serre la ceinture. C'est ça la réalité. C'est ça les assistés.
Marc Menant, étant dans le cadre de communication politico-politicienne, où est-ce qu'on évoque vraiment des sujets du quotidien pour les Français qui sont cruciaux?
Ben non, oui, on est pour moi dans une politique politicienne. On est dans du propos de bonimenteur. Parce que ces propos-là, quand ils étaient tenus à la fin de la guerre, ils avaient un sens. Car la société s'instaurait dans une logique de production. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que l'environnement l'emporte, que la modernité a soustrait nombre d'emplois, que par conséquent on sera confronté toujours à un amenuisement des opportunités offertes aux uns et aux autres, même si on y dit, il y a 500 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Quels emplois? Si ce sont des emplois d'assistantes, de familles, etc., sont des emplois de paupérisation. Donc, il y a des questions à se poser et je crois que les hommes politiques aujourd'hui ne peuvent plus reprendre les structures sociales telles qu'elles existent depuis aussi longtemps. Qu'est-ce que le monde? Quels sont... Quand on met en équation un domaine, on essaie de repérer tous les paramètres et de là, on constitue un algorithme. Ils sont avec un algorithme qui est complètement dépassé. Il faut s'interroger sur ce que devrait être la société. Thomas Moore avait inventé cette notion de salaire universel. Hamon avait repris ça et ça offusquait d'une certaine façon en disant « mais comme ça, on pourra avoir de l'argent sans travailler ». Reste que, comme on ne pourra plus avoir le plein emploi, est-ce qu'il n'y a pas une logique à développer ce principe où
l'individu, quoi qu'il arrive, a quelque chose sans avoir à tendre la main.
Jean Garrigue, avec l'aveuglement peut-être des politiques, avec cette communication, cette politique politicienne, est-ce qu'ils en oublient les réalités et sont-ils hors sol de la réalité des Français?
Ce débat, il apparaît comme hors sol, on est d'accord. Mais il y a quelque chose derrière, je le répète. Pour les communistes, il y a un électorat à reconquérir qui est celui du monde du travail, celui des ouvriers. Les ouvriers, aujourd'hui, votent pour le Rassemblement national.
C'est sortir de la NUPES, en quelque sorte. C'est reprendre son indépendance.
Il y a quelque chose de ça, en tout cas, on voit bien. C'est très clair, on voit bien la réaction de Clémentine Autain. Elle est prise de court. Elle ne s'attendait pas forcément à cette sortie. Et ce n'est pas la première de Fabien Roussel pour se décaler par rapport aux écolos et aux mélenchonistes. Donc, il y a vraiment quelque chose là, si vous voulez. Moi, je le vois comme une stratégie, en fait, électorale pour aller récupérer le monde du travail. Et aussi, de manière opportuniste, pour surfer sur quand même ce que la crise de la pandémie nous a suscité, nous a proposé de faire, c'est-à-dire retrouver une industrie forte, retrouver une production forte, notamment dans les productions de pharmaceutiques ou autres. Donc, il y a quelque chose quand même là qui, je le répète, qui s'inscrit dans l'histoire du Parti communiste, ça c'est incontestable, et puis qui tend à retrouver un électorat perdu. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Oui, mais c'est là où on est vraiment dans une logique électoraliste. Il nous faut essayer de décrypter le monde à venir. Parce que cette production, on est aujourd'hui 6 milliards, combien? On ne va pas produire, la Terre ne pourra pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment l'organiser? Comment éviter que les crises telles que nous commençons à les amorcer, qui sont des crises environnementales extrêmement fortes, ne nous conduisent pas à des drames sociaux qui se multiplieraient et qui pourraient conduire à une impossibilité à tenir les peuples?
La parole politique circule beaucoup à la fête de l'UMA et d'ailleurs sont invités des membres politiques des partis d'opposition ou du parti présidentiel. C'est le cas du ministre Gabriel Attal qui a été hué par une partie du public mais qui sur les valeurs travail et sur le débat que nous avons actuellement sur ce plateau a réagi également donc aux propos de Fabien Roussel. Gabriel Attal.
S'il s'agit de dire que la valeur travail est essentielle dans notre pays, qu'il faut la renforcer et qu'on considère que les Français peuvent se construire, faire des projets en travaillant plutôt qu'en bénéficiant de la solidarité nationale, on est évidemment d'accord avec ça. Mais la grève de la facture, ça n'existe pas. Les Français, ils le savent. À la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye et la facture, elle finit toujours par vous rattraper. Donc cet appel, c'est plutôt une mise en danger de ceux qui ne paieraient pas leur facture plutôt qu'autre chose. L'important pour moi, c'est de trouver des solutions pour accompagner les collectivités locales qui ont des difficultés à payer leurs factures.
Quand Gabriel Attal évoque la grève de la facture, c'est une autre déclaration de Fabien Roussel qui date aussi d'hier, mais il l'a répété aujourd'hui, c'est de demander aux maires de ne pas payer le surplus d'électricité qui serait recommandé, notamment cet hiver, parce que l'électricité, vous le savez, devient de plus en plus chère. Voulez-vous réagir, Philippe Delorme?
Non, moi simplement, cette idée de travail, ça dépend ce qu'on met derrière les mots. Qu'est-ce que c'est que de travailler Moi, je pense qu'il faudrait donner à chacun un métier. C'est-à-dire lui donner quelque chose qui donne un sens à sa vie, qui produise véritablement quelque chose. Combien de personnes font des professions ou des jobs, comme on dit, qui servent à rien finalement, qui produisent des choses qui de toute manière seront détruites, etc.
Quels sont les métiers qui ne servent à rien?
Je ne sais pas. Par exemple, ceux qui impriment des publicités qu'on va mettre dans les boîtes aux lettres et qu'on jette immédiatement. À quoi ça sert? Le type qui produit le papier, le type qui imprime, le type qui distribue, tout
l'imprimeur,
ça sert à rien.
L'imprimeur,
oui, mais ça ne sert à rien.
Du papier, du livre.
Mais ça ne sert à rien. Au fin de compte, c'est un travail qui débouche sur du néant.
Et Philippe, il a raison. Plus, vous imaginez.
Les imprimeurs sont ravis de vous écouter.
Les imprimeurs d'abord.
On ne peut plus faire notre métier, on ne peut plus imprimer de prospectus.
Non, mais pardon, il faudra. En l'occurrence, on parle d'environnement. Excusez-moi, faut qu'on arrête de fabriquer ces prospectus hideux qui dégorgent des boîtes aux lettres qui sont après.
Mais je pense qu'il y a effectivement tout un tas de métiers qui finalement, on l'a vu avec la crise du Covid, c'est-à-dire on restait chez soi et finalement ça tournait aussi bien. Donc il y a quand même, il faut que les gens trouvent un métier qui leur permette de vivre, mais qui leur permette aussi de se créer, de se former, de se
bien sûr. Peut-être dans la 15 voilà. secondes pour voilà. conclure avant je la pense. Pause, voilà. Jean Garrigue. 15 secondes.
Je suis d'accord avec ce qui est dit sur la nécessité de donner du sens, d'ailleurs à notre vie en général, pas seulement au travail. Mais il faut bien voir que là, le débat, en fait, Roussel et les autres, c'est sur la question de est-ce que le travail dans notre société rapporte plus que l'assistanat. C'est un débat très politique. Peut-être qu'on peut le trouver très politicien, un peu à courte vue, mais c'est ça au fond.
90 minutes info revient dans quelques instants. Le point sur l'actualité, des débats encore, toujours endiablés. À tout de suite. La dernière demi-heure de 90 minutes info, toujours en direct sur CNews, bien sûr, toujours avec nos invités. Marc Menant est là, Jean Garrigue également, Harold Iman et Philippe Delorme.
Merci. Mesdames et messieurs, oyez, oyez.
Mais oui, venez de plus en plus nombreux, vous le savez. C'est une tranche qui fonctionne très bien, on dit
mais
bien,
oui,
vous le savez,
oui.
mon cher,
c'est pour ça que
mon cher
je
Marc.
Précipite.
Absolument, et c'est pour ça aussi que vous êtes le bienvenu. Et qu'on fait le point sur l'actualité également avec Mickaël Dorian.
Charles III proclamé roi une seconde fois cet après-midi à la Bourse de Londres. Plus tôt dans la journée, le fils aîné de la défunte reine Elisabeth II avait prêté serment et une première cérémonie avait eu lieu au balcon du palais St James, résidence administrative de la couronne britannique. Le nouveau roi qui doit, dans les prochaines heures, recevoir la première ministre, les principaux ministres et les chefs de l'opposition. Nouvel échange téléphonique ce samedi entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État se sont entretenus au sujet de la situation toujours très préoccupante autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Le président français a aussi interrogé son homologue ukrainien sur les besoins de l'Ukraine, a indiqué l'Élysée, alors que les États-Unis ont déjà annoncé une nouvelle aide militaire de 2,8 milliards de dollars. Et puis vers la parité au CDU, le parti de l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel. Pour la première fois de son histoire, le parti chrétien-démocrate a adopté un quota de femmes. À partir de l'année prochaine, les femmes devront occuper un tiers des postes de direction du parti, 40% en 2024 et 50% en 2025. Des quotas qui s'appliqueront également aux candidats des prochaines élections générales, régionales et européennes.
Et l'actualité sécurité à présent sur l'antenne de CNews. Je salue d'abord en duplex François Bersani, policier, porte-parole Unité SGP Île-de-France. Merci d'être avec nous puisque nous allons évoquer le cas de ce policier de 23 ans, auteur du tir mortel sur le conducteur qui avait refusé d'obtempérer mercredi à Nice. Ce policier a été mis en examen pour violence volontaire avec arme ayant causé la mort sans intention de la donner et il a été interdit de port d'armes. On revoit cette séquence. Assez violente, vous allez le constater, qui a été filmée ce jour-là à Nice. Voilà, la fin de la course poursuite, refus d'obtempérer plusieurs fois, véhicule volé, connu des services de police, le conducteur notamment. Mais aujourd'hui, donc cette mise en examen, avez-vous le sentiment, François Bersani, que cette mise en examen est logique ?
Écoutez, M. Rosso, qu'une enquête judiciaire donc, soit menée par le procureur de la République suite à la mort d'un homme ou à un homme même blessé par balle par un tir de police, c'est bien naturel, même si la police a le monopole de la violence légitime et qu'en effet, des lois permettent aux policiers de se défendre et de bénéficier, par exemple, de la légitime défense comme une cause, on va dire, d'irresponsabilité pénale, c'est l'article 122-5, il est tout à fait normal que la justice puisse démontrer que le policier était dans son bon droit d'utiliser son arme administrative pour se défendre d'une attaque qui est imminente, qui est sérieuse, qui est injuste et à laquelle il doit répondre. Donc ça n'est pas un souci. Ensuite, sur les procédés qu'utilise la justice pour arriver à ses fins, là, on peut en discuter. Une information judiciaire tout à fait logique qu'un juge d'instruction soit nommé dès lors qu'il y a mort d'homme. Après, on peut toujours discuter des conditions dans lesquelles le policier va être traité durant toute la longue phase judiciaire qui s'ouvre. Outre la garde à vue, mais impossible déferrement, voire impossible contrôle judiciaire, voire une suspension Tout de suite de ses fonctions, et parfois on reste 6 mois, 1 an, 2 ans suspendu, sans traitement, en attendant que les choses se fassent et que la justice aboutisse. Donc là, oui, on peut en effet revenir sur les conditions dans lesquelles va être traité le policier. Est-ce que le policier qui se lève le matin pour garder la paix et défendre la veuve et l'orphelin doit être traité comme un délinquant ou un criminel lambda dès lors qu'il a utilisé son arme en estimant avoir été dans le bon droit? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir.
Parce que François Bersani, c'est vrai que pour le grand public, celles et ceux qui nous regardent, nombreuses et nombreux sur CNews, quand on dit mise en examen, on pense tout de suite à condamnation et forcément prison. C'est souvent une case qui est cochée par le commun des mortels, même si en effet, il peut être libéré prochainement. Mais en tout cas, mise en examen, cela semble faire un peu tâche.
Alors, M. Rousseau, vous vous souvenez que ce terme, en fait, il était venu remplacer le terme d'inculpation, parce qu'on estimait qu'inculpation, c'était déjà quasiment une présomption de culpabilité, puisque de toute façon, en analysant, en faisant de la sémantique sur le mot inculpation, on avait coupable. Donc, à ce moment-là, c'est pas l'Académie française, mais presque, qui a décidé, je fais un peu d'humour, mais d'alléger le terme, de l'alléger en désignant une mise en examen. C'est-à-dire qu'on va étudier, on va examiner les faits tels qu'ils se sont produits. Ce qui a pu parfois mettre vent debout les syndicats de police, c'est quand la mise en examen vise des faits d'homicide volontaire. Parce qu'aucun policier de ce pays ou aucun gendarme ne se lève le matin et enfile sa tenue de gardien de la paix ou de gendarme pour, dans l'intention de tuer quelqu'un. Donc c'est souvent le motif juridique, mais Georges Fenech a souvent développé aussi ce sujet sur les plateaux. C'est souvent ça qui met les policiers vent debout. Là, en l'occurrence, cette mise en examen, pour l'instant, va suivre son cours et peut-être en effet que l'état de légitime défense ne sera pas reconnu ou sera reconnu. On va laisser les magistrats travailler le plus sereinement possible. Et encore une fois, les instructions comme ça judiciaires, les informations judiciaires ne se limitent pas à une vidéo toujours un peu parcellaire. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après, on n'a parfois pas le son, on a parfois des angles de vue qui déforment la réalité. Donc laissons en effet les magistrats travailler.
Effectivement, avec les commentaires que l'on peut faire, on continue à échanger avec vous, François Bersani, mais j'aimerais faire réagir le plateau. Je rappelle que dans cette situation, mercredi, l'individu donc, qui a été tué était en train de zigzaguer dangereusement, disent les policiers. Après plusieurs sommations, d'ailleurs, ce policier a tiré à une reprise sur le conducteur de ce véhicule volé. C'est une version qui est corroborée par des témoins qui étaient présents sur les lieux. Mais le scénario est rejeté par les proches de la victime, par les avocats notamment, pour qui il est évident qu'on a affaire, Marc Menant, à un homicide. L'un des avocats estime que la réaction du policier est clairement disproportionnée. Et chacun peut peut-être se faire juge sur les images que l'on voit.
Moi, j'adore les propos de François Bersani.
Oui.
Non, parce que là, il dit quoi? On est dans un état de droit, nous sommes policiers. Ce n'est pas un petit métier, policier. C'est un métier de responsabilité.
Bien sûr.
On nous donne le droit de tuer et nous voulons être à tout jamais dignes de cette responsabilité-là. Donc, qu'il y ait enquête. Mais moi, quand je vois les images...
On nous donne le droit de tuer, Marc Menant, ce sont des propos qui sont lourds, en tout cas, qui peuvent avoir une résonance assez divergente quand
on se
positionne d'un côté ou de l'autre.
C'est pas ça. C'est
le droit de tuer,
non,
Marc.
C'est le droit de tuer, oui. Le policier a le droit de tuer au nom de la défense de la paix. Monsieur Bersani l'a très bien dit. Mais moi, je trouve indispensable d'entendre que lui qui représente ce métier ne discute pas la place de la justice. Comment c'est exécuté après? Est-ce qu'il y a, quand il nous rapporte que des confrères ont été pendant 2 ans en dehors de toute remise de salaire à la fin du mois, tout ça c'est inadmissible. Mais en revanche, moi je trouve formidable que là, en public, ils disent oui, mais nous admettons que dans un état de droit, on étudie un dossier. Moi, quand je regarde les images, là, a priori, j'ai l'impression qu'effectivement, le jeune, ça ne veut pas dire qu'il a agi volontairement, mais qu'apparemment, il avait perdu un peu son sang-froid. Mais quand je dis ça, je n'ai pas le droit de le dire, parce que je me fie qu'à un
on
angle...
Vous dites le jeune, c'est le policier, le jeune policier de
23. Oui, voilà. Ouais. Donc, des deux côtés. Et aujourd'hui, on est dans cette justice de médias. N'ayons pas de justice de médias. Moi, ce que je retiens, c'est qu'un policier qui est confronté au drame du quotidien, qui sait que dans 95% des cas, les confrères ont eu raison dans leur attitude. Il dit néanmoins, c'est normal que l'on ait à rendre compte de notre geste devant la justice.
Le point de vue de Jean Garrigue sur cette réaction disproportionnée, c'est ce que dit l'avocat de la défense de la victime.
Mais là encore, moi je suis légaliste comme M. Bersani ou comme Marc Menant. Je veux dire que c'est l'enquête judiciaire qui nous dira la réalité de cette intervention. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut échapper à la pollution, notamment médiatique, mais surtout politique de ces affaires par ceux qui vous disent par exemple « la police tue » comme Jean-Luc Mélenchon, qui systémise quelque chose qui est rarissime. On sait très bien que je crois que c'est dans 0,07% des cas que les policiers sortent leur arme.
Moins de 1% dans le cadre...
En cas de refus d'obtempérer. Donc c'est absolument rarissime. Et les cas d'homicide sont encore plus... d'homicide involontaire sont encore plus rarissimes. Donc voilà, respectons ce que va nous dire l'investigation judiciaire. La parole d'un syndicaliste policier qui le reconnaît, elle me semble tout à fait dans le droit fil de ce qu'on est en droit d'attendre. Et on sait bien qu'il y a des enquêtes aussi administratives à l'intérieur de la police. La police des polices fait son boulot. Il y a eu beaucoup de condamnations. Il y a beaucoup de problèmes et de traumatismes chez les policiers qui interviennent. Donc voilà, il y a un mort. Il faut d'abord respecter la victime, savoir pourquoi, etc. Et puis s'il y a eu une responsabilité effectivement du policier, il faudra qu'il y ait une sanction pénale.
J'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde virtuel. Hein. On a l'impression que là, il joue à un jeu vidéo où on tire sur une voiture pendant que la voiture essaye de... Voilà, on a l'impression que ces deux personnes, la victime et le policier... sont hors du monde réel et qu'ils jouent dans une espèce de série policière. C'est un peu ce qu'on a l'impression.
On a l'impression peut-être de voir une mauvaise série américaine.
On a l'impression
que
même n'ont pas.
Mais ce n'est pas le cas. C'est la réalité.
On a l'impression que même n'ont pas la sensation d'être dans le monde réel. Et c'est, pour arriver à tirer sur quelqu'un. À tirer sur quelqu'un, il faut vraiment.
Il a été formé pour ça.
Oui.
Le policier.
Bah mal.
Oui, mais Philippe Delorme, on peut pas dire ça. Ou vous avez raison. Nous avons une vision de jeu vidéo. Mais ouais. Eux, ils sont dans la réalité. Ouais. Et le jeune.
Oui, mais enfin, qui se sauve en faisant du slalom, il est dans un jeu vidéo, d'une certaine manière.
Non. Il est dans une émotion. Je ne suis pas en train de justifier. On est avec des hommes. Et au-delà de tout, le jeune policier qui tire, il était sans doute. Lui aussi, dans une panique réelle, il ne le fait pas délibérément.
François Bersani peut le confirmer, d'ailleurs, François Bersani. L'impact psychologique aussi du tireur, on écoutera tout à l'heure le témoignage d'un policier qui, dans d'autres circonstances, dans une autre situation, a dû tirer et faire usage de son arme. Un traumatisme qui peut exister, François Bersani, pour les policiers qui sont obligés d'utiliser leur arme.
Oui, merci Monsieur Rousseau. Oui, je voudrais déjà inviter Monsieur Delorme à faire une demande éventuellement pour venir en immersion dans des véhicules de police. Il fait une demande au niveau du ministère de l'Intérieur, ça lui sera certainement accepté. On a des demandes de la même sorte qui sont acceptées au quotidien pour qu'il voie les difficultés non seulement du métier de policier, mais aussi la fraction de seconde dans laquelle une vie peut basculer. Alors, la vie d'un individu délinquant, criminel, qui est en face de nous, et nous sommes tous bien d'accord, j'ai entendu Jean Garrigue ou Marc Menant parler de l'état de droit, on est tous bien d'accord qu'aujourd'hui, en 2022, la France est un état de droit, et qu'aujourd'hui, tous les fonctionnaires d'État, d'ailleurs, devraient justifier leur action lorsque celle-ci peut être mise en cause. Ça ne touche pas que la police, ça pourrait être des magistrats, ça pourrait être des professeurs, ça pourrait être des soignants. Et je voudrais juste dire à M. Delorme que, assis sur un fauteuil, mais moi le premier, devant ma télévision, je suis un commentateur et je pourrais en effet commenter telle action en la jugeant disproportionnée, en la jugeant non nécessaire ou en estimant qu'il y a une faute. Je voudrais rappeler à M. Delorme qu'en fait, le policier ou le gendarme, lorsqu'il est confronté à un danger, en tout cas, il a la perception du danger et il estime qu'il n'a pas d'autre échappatoire, pas d'autre solution que de faire usage de son arme à feu, soit pour protéger un collègue situé à côté de lui, derrière lui, soit lui-même, soit des citoyens qui sont à gauche, à droite, à côté d'un véhicule qui fait des des embardés ou à qui a une conduite qui peut menacer la vie de chacun. Et donc, c'est dans cette fraction de seconde qu'un policier, alors là, on parle d'un jeune policier contractuel, ce qu'on appelle les policiers adjoints, qui a une formation de 4 mois, mais le policier qui a une formation d'un an, le gardien de la paix, ou l'officier qui a 18 mois, ou le commissaire de police qui a 24 mois de formation, eh bien, je peux vous dire que, quelle que soit la durée de la formation, comme le disait très bien Marc, entre l'effet tunnel, entre un sentiment quand même inconnu, vous avez 95% des policiers nationaux qui n'useront jamais de leur arme. Eh bien, quand ce fait se produit sur la voie publique, en milieu dégradé, avec un stress le jour, la nuit, eh bien, je peux vous dire que l'appréciation est très difficile. Et c'est vrai que les jugements comme ça, un peu à l'emporte-pièce, il y avait moyen de faire autrement, on aurait pu éviter, on aurait pu... l'espèce de yaka faucon, eh bien c'est vrai que c'est très compliqué, je peux vous le dire, j'ai 22 ans de police derrière moi, j'ai heureusement jamais eu l'occasion d'arriver à cette extrémité, mais je peux vous dire que c'est une extrémité qu'on repousse tout à chacun le plus longtemps possible, parce qu'on sait derrière que certes on peut ôter une vie, certes on peut blesser quelqu'un, et surtout ça va être d'abord des remords. Sur votre antenne, Lionel Rosso, ce matin je regardais, vous aviez un policier interrogé de dos qui expliquait qu'il avait dû ôter la vie,
oui.
Enfin, qu'il avait dû, pour répondre à une attaque, ôter la vie, et qu'aujourd'hui ça le travaillait X années après, et qu'aujourd'hui il se demandait s'il n'aurait pas pu faire autrement. Je peux vous dire que certes la vie des criminels, des délinquants que nous avons face à nous quand elle est brisée, eh bien sûr je comprends la famille qui estime que nous avons fauté, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui un policier qui va user de son arme à feu, eh bien ne va pas être aussi léger dans les jours, les mois, les années qui suivent.
On écoutera ce témoignage aussi dans quelques instants, François Bersani, mais comme vous avez interpellé...
Non, mais je comprends très
Philippe
bien
Delors, ce que... Je vous cède oui. la parole, Philippe, pour savoir déjà si ça vous intéresse
oui,
de faire
non,
une
non,
demande
mais je comprends
ministère
pas, pourquoi pas.
Et pourquoi mais, pas non, mais je, monter dans je une voiture pas de police tout, pour voir les conditions de travail
Je
ne
voulais pas du tout mettre en cause le fait qu'effectivement c'est un métier extrêmement difficile et que parfois il y a des moments où on ne sait pas où il faut... agir dans le quart de seconde. Non, ce que je voulais simplement dire en parlant de jeux vidéo ou de téléfilms, c'est qu'on a l'impression que dans notre monde, les délinquants jouent aussi un petit peu on parle des rodéos urbains, oui. etc. Bon, oui. il y a une espèce de théâtralisation de ces choses.
Perte de la réalité.
Perte de la réalité. Voilà, c'est simplement ce que je voulais
vidéo,
dire.
Et séries, donc,
oui, mais
voilà. en effet.
Donc, non, mais c'est tout. Là encore.
Marc Menant. Et après,
on refait pas le match. On refait pas le match sur un fait divers.
Non.
C'est ça qui est terrible. C'est qu'aujourd'hui, on est là, on papote.
Non, on ne peut pas.
Bien sûr.
Pas.
Ces gens-là,
William
Monsieur Bersani, je dis ces gens-là avec beaucoup de respect. Ces gens-là sont confrontés au quotidien au risque. Ils subissent au quotidien des informations qui leur rappellent que leur vie est en péril. Ils ont des emmerdes dans leur quotidien. Ils peuvent avoir un tracas familial et pour autant... ils essaient de trouver en eux la force nécessaire pour être toujours dans la capacité de réagir en proportion.
Et plus grave, l'opprobre de tous ceux qui vous disent, je le répète, police tue, il y a une violence systémique, etc. Ça, c'est dur, ça doit être très dur aussi à assumer pour le corps des femmes.
Alors, je ne suis pas l'avocat du syndicat de police de M. Bersani. Mon dernier point, et ça, je tiens... à le saluer, parce que la manière dont il aborde le sujet, il ne le fait pas en corporatiste, ce ouais. que font souvent les syndicats.
C'est vrai.
Et le dernier point, juste une seconde,
parce que j'aimerais qu'on écoute
c'est
le
que quand M. Bersani dit, voilà, on ne peut pas traiter quelqu'un qui a l'autorité pour porter une arme, le traiter comme un délinquant, oui, il a raison.
Et
on ne peut pas suspendre quelqu'un qui a tué dans le cadre de son métier alors qu'on le jugeait digne de tenir cette fonction-là et cette potentialité de tuer. Donc, il doit y avoir une enquête, mais pendant ce temps de l'enquête, éventuellement, on soustrait la personne de ses fonctions, mais tout en ayant la possibilité de toucher sa rétribution en fin de mois.
On s'attarde un tout petit peu sur, en effet, le choc psychologique de donner la mort, tout simplement. On parle de la mort d'un homme, tout de même. Maxime, un gardien de la paix, c'est vrai que M. Bersani faisait allusion, qui avait abattu un homme lors d'une intervention pour une affaire toute différente. Hein. C'était une affaire de violence conjugale, mais il reste marqué par son geste. Écoutez un extrait de ce témoignage exclusif CNews.
J'ai fait 20 heures de garde à vue, j'ai été placé 6 heures en cellule. Alors en cellule, porte ouverte, certes, ce qui est un plus, mais quand même avec un collègue qui me garde. Je ne supporte pas qu'on mis en cellule, alors que j'ai fait mon travail. Je comprends qu'il y a une enquête, c'est normal, mais je ne représente aucune menace. Si j'ai quelque chose de négatif à retenir là-dedans, c'est vraiment mon placement en garde à vue.
Vous l'avez dit, François Bersani, tout à l'heure, évidemment, cette issue fatale, tous les policiers qui travaillent au quotidien veulent l'éviter absolument. C'est peut-être même quelque chose qui vous accompagne comme un poids au quotidien.
Cette intervention que vous venez de diffuser, je la connais très bien puisque je connais personnellement ce collègue, j'ai travaillé avec lui et je peux vous dire qu'il intervenait sur ce qu'on appelle aujourd'hui une priorité gouvernementale, à savoir les violences faites aux femmes. Il intervenait sur une femme grièvement blessée par son conjoint dans le domicile qui était prête à la tuer. Et quand les policiers sont intervenus pour secourir, je parlais tout à l'heure, je vous parle avec un peu d'émotion, mais je parlais tout à l'heure de secourir la femme, la veuve et l'orphelin. Donc on voulait éviter justement qu'il y ait un orphelin dans ce foyer. Et lorsque l'équipage de trois policiers s'est présenté, l'individu a foncé couteau à la main sur les policiers. Il y avait 2 mètres de recul. Mon collègue, étant bloqué contre une porte, n'a eu d'autre solution que de faire feu. Sauvant au passage, certes, la femme victime de violences conjugales, mais autant la vie. Et comme cette interview que vous avez passée, elle est magnifique, parce qu'aujourd'hui, vous avez, alors c'est une bribe, vous avez passé une séquence, mais ce collègue, aujourd'hui, il continue encore, plusieurs années après, à ruminer et à se dire, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Et Lionel Rousseau, quand vous parliez de charge mentale, oui, aujourd'hui, c'est une vraie charge mentale qui fait aussi que beaucoup de vocations n'aboutissent pas. Beaucoup d'aspirants à ce métier de force de l'ordre se voient en ce moment décliner parce qu'on se dit, moi, être embringué dans le tambour de la machine à laver médiatique judiciaire, si dans une intervention de police que j'estime légitime et normale, je me retrouve cloué au pilori, jugé par un tribunal médiatique ou vilipendé par des avocats de la défense qui font leur boulot, j'en dis ce qu'on vient pas, chacun fait son travail dans la mesure du possible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les policiers, c'est une vraie surcharge mentale de se dire, attention, je suis porteur d'une arme, j'ai une responsabilité beaucoup plus grande que tout à chacun. En plus, j'aurais le double effet qui se coule, on va dire, avec des sanctions administratives, des sanctions judiciaires, et surtout, je serais traîné éventuellement sur la place publique pour un acte qui peut-être, au final, était légitime après 2 ans, 3 ans, 4 ans d'information judiciaire. Donc, en effet, vous avez raison, Monsieur Rousseau. C'est un véritable poids aujourd'hui, mais les gardiens de la paix, les 150 000 policiers de ce pays, les 100 000 gendarmes, ils ont passé un contrat en fait avec la nation. C'est vraiment les derniers hussards noirs de la République avec les soignants, avec les enseignants qui sont dans les derniers quartiers les plus difficiles. Ce sont les derniers à rentrer dans ces quartiers difficiles ou alors aller en zone rurale qui commence à devenir difficile aussi. Bien sûr. Même avec ça, ils continuent à s'engager pour la société, pour vous protéger, pour nous protéger.
Merci François Bersani. Merci de nous avoir accompagnés sur CNews en 90 minutes info. Merci aussi à nos invités. C'était un casting royal, je le disais en début d'émission, et je le confirme et je le valide également sur la fin de cette émission. Dans quelques instants, Punchline, là aussi ça va être royal avec Patrice Boisfer, le souverain. A tout de suite. On se retrouve dans quelques instants sur CNews pour la suite de l'actualité.